VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Burundi, de nouveaux développements. Pierre Claver Mbonimpa, le défenseur des droits de l'homme grièvement blessé le 3 août lors d'une tentative d'assassinat, est finalement parti dimanche soir pour la Belgique où il recevra des soins médicaux après levée de l'interdiction de quitter son pays qui l'affectait depuis l'année dernière. Et puis, les autorités burundaises annoncent l'arrestation de plusieurs exécutants de l'assassinat au début du mois du général Adolphe Nshimirimana, responsable de la sécurité du pays. Pour l'analyse de ces nouveaux développements, Timothée Donangmaya joint le professeur Fabien Tshiharayo de l'Université de Montréal au Canada.
J'espère que ce n'est pas pour amuser la galerie qu'on a fait ça. J'espère qu'ils vont rapidement identifier les cerveaux de l'assassinat et qu'ils vont les juger et en toute transparence. Parce qu'il en va de la crédibilité de nos institutions. Si jamais c'est pour amuser la galerie, ça va encore ridiculiser les institutions de la République. Et ce ne sera pas bon pour les dirigeants au pouvoir, ni pour nous d'ailleurs. Parce que ça veut dire qu'il y a des innocents qui vont souffrir et qu'au bout du compte, cela ne va pas nous avancer en quoi que ce soit.
Sur un autre plan, le militant des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa s'est envolé dimanche soir pour la Belgique où il va être soigné. Alors comment interpréter son départ?
C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a un peu d'humanité dans ce pays. Mais il ne faut pas oublier que c'est une conséquence d'une maltraitance et c'est une conséquence d'une tentative d'assassinat. Mais cela veut dire aussi que la pression de la communauté internationale peut jouer dans le sens de l'humanisation de nos institutions. J'espère qu'il va s'en remettre et j'espère qu'il va retourner à Bujumbura parce que la bataille qu'il mène a encore besoin de soldats.
Le professeur Fabien Tshiharayo de l'Université de Montréal au Canada. En RDC, retour progressif à la normale à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, après le séisme de la semaine dernière. Le point avec notre correspondant sur place, Ernest Mouero.
La ville de Bukavu reprend peu à peu ses couleurs après la vive émotion et inquiétude qui a suivi le tremblement des terres du 7 août dernier. Les activités socio-économiques se déroulent à la normale, mais une soixantaine de maisons datant de l'époque coloniale en commune des Kadutu et des Bagira affichent des murs lézardés. Amos Bissimwa, un habitant de Bukavu, déplore l'absence de prévoyance de la part du gouvernement.
Sous d'autres siècles, quand il y a de telles situations, le gouvernement en place prévient les habitants au moins de 48 heures avant. Mais chez nous, vous voyez que nous avons été surpris en plein sommeil. Beaucoup sont dans une situation compliquée, ils n'ont pas d'abri.
Selon les gouvernements provinciaux du Sud Kivu, au moins 3 personnes ont trouvé la mort en territoire des Kabare et Kalehe, où l'on enregistre une soixantaine de blessés, mais seulement 3 grièvement. Près d'une centaine de maisons et édifices divers sont à terre. Des familles restent inconsolables. Certains tentent tant bien que mal de se reconstruire en chez soi à titre provisoire. Robert Ndjangala, coordonnateur du mouvement des jeunes Sagesek Force Vive, plaide pour l'assistance de ces sinistrés.
Le gouvernement devait en toute urgence les assister, voir comment les construire de nouvelles maisons, voir les intempéries et autres. Et l'État doit mettre en place un plan qui vise à urbaniser la ville en tenant compte le mouvement sismique.
Le ministre provincial en charge des affaires humanitaires au Sud, qui voulait le docteur Moïse Anangounia, déclare que le gouvernement suit de très près ces cas de catastrophes naturelles, mais il ne faut pas confondre son rôle avec celui des services d'assurance.
Le gouvernement est mobilisé jusqu'au sommet de l'État. Tous les blessés ont été prise en charge. Nous avons recommandé les gens de ne pas habiter dans des maisons qui sont porteuses de profondes fissures. Et aussi, une chose que nous devons dire, l'État n'est pas un assureur. Pas question de dire, non, j'ai perdu ma maison, il faut que l'État me construise une maison. Mais on va tout simplement assister la population à se relever.
Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
On reste en RDC pour l'actualité économique avec Bagassi Koura.
En RDC, les recettes fiscales des régions font les frais du découpage territorial depuis l'annonce du démembrement des provinces de la République démocratique du Congo qui passe de 11 à 26 provinces. Les recettes fiscales de l'ex-Katanga ont chuté de 30% selon le ministre provincial des Finances et de l'Économie de la dite province. Sur Radio Okapi, il a même lancé un appel au civisme fiscal.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, vague de condamnations après les violences de la semaine dernière où l'armée malienne a perdu 18 soldats et la population civile aussi a payé un lourd tribut. À preuve, les 10 civils tués par les hommes armés ce dimanche à Gabéry, un village du cercle de Gourma-Rarous dans la région de Tombouctou. Au moins un assaillant aurait également péri. Cette attaque faisait suite à la prise d'otage à Sévaré dans la région de Mopti vendredi qui s'est soldée par un total de 13 morts samedi. 4 militaires, 4 assaillants et 5 employés de l'ONU. Plus de détails sur les réactions à ces violences avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Une semaine noire pour les soldats maliens. Seule l'attaque de Baguineda du samedi 8 août 2015 n'a pas fait de victimes ni de blessés. Les organisations de la société civile malienne condamnent toutes ces attaques.
La plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali a appris avec indignation et stupéfaction l'infiltration terroriste venue à Sévaré occasionnant la mort des innocents.
La plateforme des mouvements républicains d'Alger 12 condamne fermement les agressions, les prises d'otages et les assassinats lâches et barbares contre les paisibles populations du Mali. Les soldats de la République, les étrangers vivant ou de passage au Mali.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président guinéen Alpha Condé a déclaré récemment à Niamey qu'il est prêt à engager la Guinée dans la lutte contre les islamistes de Boko Haram dès que le Niger le lui demandera. Mais à Conakry, cette initiative ne fait pas l'unanimité, nous dit notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
Boko Haram, une menace pour la sous-région, peut-on entendre dans les débats entre citoyens à Conakry? Mais à la question de la participation des troupes guinéennes contre la secte islamique, les réponses s'écartent l'une de l'autre.
C'est une question d'anticipation. Donc c'est une bonne chose d'en parler et puis de prendre aussi des mesures. Il ne s'agit pas d'en parler seulement, il faut prendre des mesures de sécurité.
C'est intéressant qu'ils puissent prendre position, mais pour moi c'est une erreur de communication. Boko Haram, c'est vrai, c'est une menace sous-régionale. Mais il faut prendre aussi le problème sous un aspect géopolitique. Parce que nous avons beaucoup plus de problèmes internes à régler que de se soucier de certains problèmes qui sont un tout petit peu loin de nous.
Conakry, Zakaria Kamara pour La Voix de l'Amérique.
Un camp binational d'indépendance économique organisé par les ambassades des États-Unis au Togo et au Bénin en faveur des jeunes femmes a eu lieu récemment à Lomé. Notre correspondante sur place, Kay Lawson, nous en dit plus.
Âgées de 23 à 35 ans, les 100 jeunes dames venues du Togo et du Bénin ont montré tout au long de la semaine leur détermination à réussir dans l'entrepreneuriat. Longtemps considérées comme la chasse gardée des hommes, les femmes essaient, non sans contrainte, de percer le mystère du monde de l'entrepreneuriat. Saouda Gbadamassi Imivedor, directrice du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ Togo.
Nous avons remarqué dans nos offres de services que la clé de répartition en faveur des jeunes filles s'établit à 30% contre 70% pour les jeunes hommes. Donc c'est une opportunité formidable de faire émerger l'entrepreneuriat féminin et donc le FAEJ, qui est un dispositif d'appui technique et financier, sera présent aux côtés des Togolaises pour accompagner donc ces jeunes gens à la mise en œuvre de leur projet d'entreprise.
Quelle que soit la nature des apports ou aides que recevront ces jeunes entrepreneurs, la féministe togolaise Christine Agnelé-Mensah-Atoem estime qu'elles doivent être maîtresses de leur destin en ignorant les barrières culturelles pour cultiver l'excellence.
Elles veulent être des entrepreneurs, il faut qu'elles s'y mettent, qu'elles essayent d'être à la hauteur. Ce n'est pas seulement les hommes qui évoluent, les femmes aussi, elles doivent rechercher surtout la compétence. Les contraintes, ça ne manque jamais. Surtout que nous croupissons encore sous les pesanteurs socio-culturels. Et c'est des chaînes que nous essayons de briser aujourd'hui pour aller de l'avant. Ces contraintes, nous devons les renvoyer derrière pour évoluer.
Un conseil que la béninoise Marie-Danielle de Souza, qui envisage ouvrir une agence de tourisme, dit avoir mis en pratique dans sa vie d'entrepreneur.
Des difficultés particulières? Non, parce que je ne calcule pas ces fameuses difficultés-là, je ne fais pas attention. Je ne me vois pas en tant que femme forcément, mais en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain qui veut entreprendre, donc les petites barrières et tout ça, je ne calcule pas. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance de profiter de cette formation qui va me permettre d'entreprendre différemment des autres.
La formation a porté non seulement sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur le leadership. Au bout d'une semaine de remise à niveau, c'est avec des idées de collaboration future que les Togolaises et Béninoises se sont séparées. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Et pour terminer ici aux États-Unis, un jeune homme blessé dans un état grave, tel est le bilan d'un échange de tirs entre la police et ce jeune homme armé à Ferguson dans l'état du Missouri, en marge des manifestations pacifiques hier pour commémorer le premier anniversaire de la mort de Michael Brown, l'adolescent noir non armé tué par un policier blanc l'année dernière dans cette ville de la banlieue de Saint-Louis. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.